the shark has pretty teeth, dear. And he shows them.
Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Radio Craponne pour cet invité du jeudi. Aujourd'hui, ça sera le local de l'étape, puisqu'on va accueillir dans quelques instants Pierre Petit, qui vient de sortir son dernier roman, La ceinture dorée, aux presses de la Cité. On le retrouve dans quelques secondes.
Billows start to spread. Fancy gloves, though, where's Maggie, dear? So there's not a trace of red on the sidewalk. Sunday morning, even lies a body oozing life.
Voilà, eh bien, on va retrouver tout de suite Pierre. Pierre, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre.
Alors, donc, ton dernier roman, d'ailleurs, qui est très épais, je trouve, ça a été écrit plus gros
ou... Je me laisse aller, là.
Tu t'es laissé aller, là?
Non, mais j'avais une commande pour 300 pages, je crois qu'il y en a 400.
Ah, d'accord. Oui, je n'ai pas regardé, remarque.
Non, mais tout pour la satisfaction de la clientèle.
Hein. Oui, 423, oui. Donc, c'est bien. Alors, La ceinture dorée. Le titre, pourquoi d'abord?
Bonne renommée vaut mieux que ceinture dorée. Non, il y a quand même une ceinture contenant des pièces d'or qui joue un rôle capital dans cette histoire.
D'accord, oui, c'est vrai. C'est vrai. Et donc, là, la première page du bouquin, on voit.
Le nœud de l'affaire se passe dans une ferme de notre région.
C'est ça.
Hein.
Oui.
On va dire du côté de Saint-Jean-d'Aubrigou, je dirais.
D'accord.
Enfin, on la met où on veut, mais moi, je la mets plutôt de ce côté-là. Et il y a une porte de ferme, et il y a une ferme et une fenêtre éclairée par laquelle quelqu'un va voir quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir, etc., etc.
D'accord. Alors, tu nous dis que hiver 43, le train venant de Saint-Étienne reste bloqué en gare de Fontbonne, donc c'est que toi... C'est Fontbonne, c'est toi.
Ouais, Fontbonne, c'est Craponne.
C'est Craponne, oui, mais donc tu appelles Fontbonne. En raison, bien sûr, tempête de neige. Alors, à son bord, il y a une personne, on est pendant 43, donc, hein, Samuel Grunberg et sa petite fille, donc, qui fuit Lyon. On comprend pourquoi, les persécutions. En fait, Samuel, il doit confier sa petite fille Sarah à des religieuses avant de retrouver un passeur. Et en attendant, il se cache chez un couple de paysans. Et puis là, il se croit en sécurité. Et c'est là, justement, que tu parles de la ceinture dorée. Parce que quelqu'un voit que cette ceinture est très dorée.
Oui.
Il y a des pièces d'or, il y a des diamants. Et ça va être la trame de toute l'histoire.
Oui, ça lance une... Ça induit une convoitise qui sera, on peut dire, pas favorable à Samuel.
Oui, puisque il va... Il va disparaître,
lui. Il va disparaître.
Hein, comme ça, avec son trésor, c'est ce que tu nous dis.
On le retrouve à la fin.
Et voilà. Et donc, 20 ans après, en gros, hein, c'est ça, une jeune femme qui revient dans le petit village de la Haute-Loire, sous prétexte d'une étude sur Fontbonne, elle pose des questions, mais apparemment, au goût de beaucoup de personnes, elle pose vraiment trop de questions.
Voilà. Mais c'est pas ça qui va la rendre... ni antipathique ni soupçonnable. Non, c'est quelqu'un de sympathique du bout en bout. Elle va faire une rencontre, etc. Enfin, elle va faire des tas de rencontres, mais en faire une qui va être décisive pour sa vie. En fait, mon histoire commence beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tôt. Ça commence en 1880, je ne sais pas combien, quand justement la famille Grunberg. Et là, j'ai été inspiré par Mendelssohn, le compositeur, dont les grands-parents avaient été juifs, mais avaient viré s'étaient convertis au protestantisme. Et mon Samuel, à peu près à la même époque, enfin un peu plus tard, les grands-parents de Samuel, à la même époque que ceux de Félix Mendelssohn, se sont convertis au protestantisme, croyant se mettre à l'abri des persécutions. On sait que l'histoire a montré que ce n'était pas le cas, que les gens d'origine juive, protestants, catholiques ou agnostiques, déclarés, ils passaient comme les copains. Donc voilà, ça commence là, mon histoire. C'est la racine de tout. Après, le nœud de l'histoire n'est pas là. Le nœud de l'histoire est à Fontbonne en 1943. Et puis, il va y avoir un deuxième nœud en 1964, je crois.
Oui, c'est ça, 1964. Mais alors, cette jeune femme qui débarque, elle n'arrive pas comme ça par hasard non. dans ce village-là, Haute-Loire.
Non, c'est en fait Samuel Grünberg, dont on parle au début, au tout début, avait été voyagé avec sa fille. Il était arrivé malheur à leur mère et femme, à sa femme et à la mère de la petite, à Lyon, et il se sauvait pour échapper à ceux qui avaient provoqué la mort de sa femme. Et donc, c'est cette jeune fille qui on va débarquer. On apprendra très, très, très vite. Hein. C'est... Donc, je ne dévoile pas le secret du roman, que c'est la fille de Grünberg qui revient voir un peu, essayer de comprendre ce qui est arrivé à son père. Parce donc, que Grünberg, oui. Samuel, on va dire Samuel, ce sera plus simple. Samuel, d'abord, il s'était débaptisé Vermont, c'est la traduction exacte de Grünberg. Et il est... Il était venu dans notre région pour cacher sa fille, pas pour se cacher lui-même. Il se croyait protégé par son absence, son statut de protestant. Mais il était venu pour cacher sa fille parce que sa femme, elle, était juive authentique, quoi. Enfin, donc il est venu pour cacher sa fille dans un couvent. Alors là, complètement imaginaire, un couvent en pleine nature, un couvent de sœurs qui cachait une quinzaine d'enfants juifs, un peu comme l'histoire d'Isieux, pas l'Isieux de Saint-Chamond, l'autre.
Oui.
Et c'est un peu ça, c'est un Isieux que j'ai transposé dans notre région.
Oui, donc voilà, il vient, ouais, en résumé, il vient pour cacher sa fille parce qu'il croit qu'on est au fin fond de la Haute-Loire. Il dit, bon, ben là, elle risquera rien.
Elle risque rien, en fait.
Elle risque rien.
Elle traversera la guerre. Elle sera récupérée par ses grands-parents, puisque les parents ont disparu.
Ouais.
Et après, ben, on la revoit 20 ans plus tard.
Oui, alors bien sûr, là, l'erreur qu'il fait, enfin, fait pas forcément une erreur, mais il a cette ceinture et il doit l'ouvrir, je présume, parce que pour que la personne voit toutes ses pièces d'or et ses diamants.
Parce que la personne qui, qui voit les pièces d'or. C'est arrangé pour qu'il, d'une façon ou d'une autre, il les montre.
Ah, d'accord.
Ça, non, mais je ne vais pas tout raconter.
Ah, non, mais raconte pas tout, non, mais bon. Oui.
Pardon.
Non. Alors, donc, oui, pour qu'il. C'est lui, hein,
en fait. Oui, c'est lui qui, en voulant extraire une des pièces, donne l'occasion à les personnes malveillantes de voir qu'il n'y a pas qu'une pièce.
D'accord.
Il y en a même beaucoup.
Oui, alors, bien sûr, surtout pendant la guerre où les gens n'ont pas grand-chose. Ça peut susciter des envies.
Oui, oui, surtout que c'est une ferme qui est assez loin de la gare, donc où les gens ne peuvent pas pour vraiment profiter du marché noir,
oui.
Parce qu'il y en a qui en profitaient quand même pas mal.
Un petit peu, ouais, même pas mal. Oui, donc ils disent, bah, c'est l'occasion peut-être là de s'enrichir facilement.
Oui, ben là, c'est mai.
Mais,
cette mai.
Voilà, il y a ce mai.
mais cette ceinture va être... comment dire, considéré comme un talisman, comme ils s'enrichissent pas, s'enrichissent pas vraiment, ou du moins s'ils sont riches, ils peuvent pas la dépenser.
D'accord.
Ils peuvent pas dépenser les pièces d'or.
D'accord.
Donc ça donne lieu à tout un tas de développements. Et je vais pas quand même tous les raconter, mais
non, pas tous, non, mais bon, on comprend que il va se passer des, enfin, bien sûr, le roman il dure longtemps, donc il va se passer des choses, et c'est là. Il disparaît, donc c'est déjà le... Alors, est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il n'est pas mort? C'est le point d'interrogation.
Pour le monde extérieur, il disparaît.
Il disparaît, voilà.
Et on ne trouve ni corps ni rien.
Ouais, voilà,
on le retrouvera à la fin, mais je ne vous raconterai pas comment.
Non, mais il a disparu, et puis voilà tout. Hein.
Voilà, donc sa fille, à la fin de la guerre, quand les grands-parents...
Ouais, elle veut savoir, elle.
Voilà. Et elle est aidée en ça par quelqu'un qui est... du réseau de passeurs qui faisait justement, qui avait procuré le refuge,
oui.
Lui avait procuré ce refuge par intermédiaire de son père.
Mais lui, apparemment, ce que je comprends, c'est qu'il retrouve...
Lui fait partie d'un réseau de passeurs qui faisait passer des aviateurs anglais. Ça existait, ça, c'est pas une invention.
Non.
Hein. Il faisait passer des aviateurs anglais en Espagne. Alors qu'il y en ait un qui soit passé par chez nous, ça c'est peut-être une autre histoire, mais c'est pas invraisemblable.
C'est pas invraisemblable, oui, d'accord.
Et surtout qu'il y avait des lignes de chemin de fer qui reliaient La Chaise-Dieu, ou puis à Vichy, Saint-Étienne, etc.
Oui, à l'époque, c'était un nœud ferroviaire.
Donc,
même
ça
si,
pouvait jouer sur des lignes secondaires. C'était peut-être moins surveillé que les lignes principales. Enfin, j'en sais rien, mais c'est pas impensable.
C'est pas impensable, d'accord. Donc, la ceinture dorée, Pierre Petit, aujourd'hui, c'est notre invité aux presses de la Cité. Donc, le dénouement, bon, ben, on saura pas, mais il faudra lire jusqu'à la fin. Mais il va y avoir... Et cette jeune femme, elle va rencontrer beaucoup de personnes une fois qu'elle sera ici.
Oui, elle va rencontrer d'abord... Elle mène une étude réellement sur la condition paysanne en France, oui, et en particulier dans notre région. Alors, pourquoi notre région? C'est évident qu'elle a choisi, sachant à peu près où elle était... Elle l'a choisi, mais cette étude est réelle, donc elle va interroger les fermiers un peu partout, mais chez les commerçants, chez les fermiers, elle va glisser des questions qui vont lui permettre, qui devraient lui permettre de trouver ce qui est advenu à son père.
Oui, parce qu'en fait, elle a su quand même, elle, que... Parce qu'à 5 ans, elle ne pouvait peut-être pas se rappeler. Hein,
ah ben, elle a su, le réseau s'est aperçu.
Oui.
C'est compliqué. Le réseau s'est aperçu que Samuel avait disparu à Fontbonne,
voilà,
enfin, dans les environs. Il y a tout un tas d'indices.
Oui.
Mais ils avaient autre chose à faire que de chercher par-ci, par-là.
Ouais.
Donc, ils ont entériné cette disparition en se réservant de le chercher plus tard. Et justement, le chef de ce réseau, qui était postier, quelqu'un des téléphones à Lyon, décide un jour de ne pas laisser cette chose rester dans l'ignorance, et il va venir enquêter sur place.
Mais sa fille, elle vient, c'est qu'elle a été informée qu'elle avait été ici pendant la guerre.
Oui, oui, ils lui ont dit qu'il avait disparu,
oui,
qu'il n'était pas revenu de Fontbonne.
Voilà, mais elle sait qu'elle avait été à Fontbonne.
Elle sait, oui, oui, voilà. Elle a 5 ans. Quand, au moment
ouais, quand de... même, elle arrive à se rappeler.
Oui, elle sait, oui, oui, vous allez voir qu'elle se rappelle des tas de choses. Heureusement, d'ailleurs. Ça la sauve,
moment. D'accord. Parce
qu'il y a vraiment des gros méchants.
Il y a des gros méchants là-dedans. Et donc, tu nous parles du gars du téléphone, là. Lui aussi, il vient faire son enquête.
Oui, lui, il va venir faire son enquête et... Ah, je ne vais pas tout raconter.
Non,
mais il fait son enquête et finalement, il ne repartira pas de Fontbonne.
D'accord.
Mais c'est pas personne ne l'a.
Oui, non, mais oui, mais on verra pourquoi. Il y a
oui, vous verrez.
Il y a sûrement quelque chose qui lui fait rester.
Quelque chose va le faire rester à Fontbonne.
Qui le fait rester à Fontbonne.
Et sa femme et son fils vont venir. Et le fils va, comment dire, qui a hérité de son grand-père d'une fortune assez considérable,
ouais,
va acheter un hôtel à Fontbonne.
D'accord.
Je dirais, si vous voulez absolument le localiser, je dirais que c'est la maison Bufferne, du bistrot Bufferne.
Oui, d'accord. Ouais, voilà,
si vous voulez le localiser, mais ce n'est pas indispensable.
Non,
et la place
Croix
de Mission, etc.
Oui, donc voilà, on est
à Fontbonne, il y a une place, ouais, et cet hôtel-là va jouer aussi un rôle dans l'histoire.
D'accord, oui, tu as voulu un peu que...
Donc en tant qu'il va racheter comme ça, alors qu'il est ingénieur de son côté,
d'accord,
il sort juste d'une école d'ingénieur,
ouais,
il va racheter ça parce que, je ne sais pas, il est tenté, ça lui plaît,
oui,
et il va rencontrer la jeune fille.
Ben voilà, bien sûr.
La fille de Samuel. Il faut bien que Boy Meet Girl, quelque part...
Il y a toujours une histoire un peu d'amour dans les romans.
Sinon, ce ne serait pas marrant.
Non, il y a des rencontres impromptues, je dirais... Marc, c'est souvent la vie, hein.
Oui.
On dit la vie est faite de rencontres, mais c'est ça en fait.
Oui.
C'est complètement ça. Hein.
Oui, bah, si à deux secondes près, vous n'auriez peut-être pas eu la même vie.
Exactement.
Si vous n'aviez pas fait la rencontre, je dis à deux secondes, à deux minutes près,
oui,
vous
oui.
seriez passé deux minutes plus tard à tel endroit, vous n'auriez pas rencontré la personne qui va avoir une influence dans votre vie.
Voilà. Non, mais ça, oui, ça, c'est absolument...
C'est un peu une banalité que je dis, c'est bateau, mais c'est la vérité.
Non, mais c'est comme ça, c'est la vie. On voit bien, hein, des fois, il y a des histoires vraiment invraisemblables où des gens qui n'auraient jamais dû se rencontrer se rencontrent,
oui.
Et c'est vrai, hein, ça, c'est... Donc, Pierre Petit, la ceinture dorée, auprès de la Cité, on va faire une petite pause. Alors, comme tu m'as dit qu'on parlait de la famille Mendelssohn, qui était un grand compositeur
romantique, en diable.
Voilà. Eh bien, on va écouter un petit extrait du Songe d'une nuit d'été.
Eh ben voilà.
Eh ben voilà. Voilà donc un petit extrait du songe d'une nuit d'été, on n'y est pas tout à fait. Alors comprenez, on ne peut pas tout vous passer parce que c'est très long, mais comme Pierre nous parlait de Mendelssohn, ben ça fait l'occasion d'écouter un petit peu un extrait. Il a composé beaucoup.
Hein, oui, et puis là, c'était l'un des premiers à réhabiliter Bach.
D'accord.
Il est un des premiers à jouer Bach dans son siècle. Mais Bach avait été complètement oublié pendant un an, pendant un siècle pratiquement.
C'est souvent enfin, les artistes comme ça hein, qui.
Et puis il a été revitalisé, entre autres, par. Ressuscité par.
Mendelssohn.
Par Mendelssohn.
Alors, nous, on parle toujours de la ceinture dorée. Alors, on vous en a dit un petit peu. On va peut-être vous en dire un petit peu plus, mais pas tout. Non, parce qu'il y a de quoi faire. Hein. J'ai dit 400 pages. Il y a de quoi. Mais bon, on a compris qu'il y a beaucoup de mystères hein, dans ce roman. Il y a beaucoup de personnages qui vont rentrer en ligne de compte, là.
Donc, en réalité, il n'y a pas beaucoup de mystères pour le lecteur.
D'accord.
Il y a du mystère pour les acteurs, après, par okay. la suite. Le lecteur, il saura très vite. Enfin, il saura très vite. Ça me prend son temps, mais il sait pourquoi et comment Samuel a disparu. Après, est-ce que ne sait pas sa fille.
D'accord.
Ils ne savent pas les autres protagonistes. Parce qu'il va y avoir cette ceinture dorée, elle va finir par, ça va finir par se savoir. À la suite, d'ailleurs, de l'arrivée de la fille. Et ça va exciter des tas de convoitises. Donc, ils vont essayer de s'en emparer. Et qui vont essayer de, comme c'est dans une ferme que on suppose qu'elle est, puisque c'est là apparemment que Samuel a disparu, les gens vont essayer de s'en emparer. Il y a deux groupes de malandrins, les uns pas bien malins, les autres un peu plus méchants, qui vont essayer de s'emparer de la ceinture. Et c'est comme ça que ça va dégénérer quoi. Mais il n'y a pas, je veux dire, c'est pas à l'Agatha Christie où on ne sait pas qui, puisqu'on en parlait tout à l'heure, puisqu'on ne sait pas qui a commis le crime. On sait tout de suite qui a fait disparaître Samuel. Après, c'est aux autres de le trouver. Hein.
Oui, voilà, c'est ça. Mais bon, la convoitise. Il y a des gens... il a disparu.
Ah, il y a des gens prêts à tout. Hein.
Il y a des gens prêts à tout. Bah, surtout quand il y a... Là, à l'époque, quand on parle d'or et de diamants, c'est une fortune. Hein.
Ah ben, même aujourd'hui, c'est pas négligeable.
Si on trouvait des pièces d'or et des diamants, oui. Et cette ceinture, elle va... Comme ça...
Elle va déchaîner les convoitises, c'est
voilà,
sûr.
Elle va déchaîner les convoitises. Donc, on verra tout ça... Hein. Le long du...
Tout au long du livre.
La trame du
deuxième
roman,
partie
c'est ça.
Du livre.
Ouais. La trame du roman, c'est ça. Alors, ouais. Il est très long, hein, bien sûr, donc on peut pas...
Très long, très long.
Il est très long pour nous, là, pour en parler.
Pas pour le lecteur, j'espère.
Non, mais pas pour le lecteur. Ah ben non, j'espère qu'il se lit bien, quoi. Mais ça, les lecteurs... Parce qu'il est sorti récemment, hein.
Il est sorti aujourd'hui. Enfin, il devait sortir le 23. Et apparemment, il était en librairie lundi déjà.
Ah ouais, on est le 23, donc ils ont mis légèrement d'avance. Donc c'est vrai que c'est très, très récent. Donc vous pourrez le découvrir, bien sûr, comme on dit, dans toutes les bonnes librairies.
Dans toutes les bonnes librairies.
Il n'y a pas de problème.
Il n'y a pas de mauvaise librairie.
Il n'y a pas de mauvaise librairie. Et donc la ceinture dorée, elle va poser beaucoup de questions, hein,
oui.
Apparemment. Hein. C'est ce qu'on voit, tu nous as dit.
Je me suis offert quelques petits plaisirs dans ce bouquin. J'y ai mis des personnes réelles.
Ah ouais.
Ah oui. Entre autres, quelqu'un que j'ai connu comme un Américain, j'ai connu Américain, mais qui en fait était un... Alors je l'ai mis avec son nom et son prénom, lui, parce que je ne sais pas ce qu'il est devenu, mais je l'ai bien connu. Il était juif, il s'était sauvé de Vienne, d'Autriche, en 1937, parce qu'il sentait venir les nazis, et donc il savait que ça passerait mal pour lui. Après, il a fait une fortune aux États-Unis, il a fait bien sa pelote aux États-Unis. Alors lui, je l'ai mis sous son vrai nom.
D'accord.
J'en ai d'autres, mais je ne dirai pas les autres.
T'en as plus une nouvelle, ton
non,
Américain.
Non, mais il doit être mort maintenant, ouais. Parce qu'il était quand même assez nettement plus vieux que moi.
Hein, et c'est pas trop délicat de mettre des noms réels?
Pardon.
C'est pas trop délicat de mettre des noms réels?
Un Américain, il va pas... Personne
non, mais toi, un Américain, mais tu dis que t'en as mis d'autres.
Je suis en train de réfléchir. Non, mais c'est des Autrichiens.
Ah bon, d'accord. Oui, non, je veux dire, mais
non,
c'est pas des gens du coin.
C'est pas des gens d'ici. Ah ben non, je me permettrai pas.
Non, mais c'est pour ça, ça me paraissait un peu bizarre.
Non, non, non. Je rigolerai pas. Là. Non, non.
Ouais, d'accord.
Non, non, absolument pas. Non, si je prends la peine de maquiller les noms et prénoms des gens et puis les noms des pays et des lieux, si on connaît les lieux, on retrouve en gros.
Oui.
Mais c'est justement pour éviter toute qu'on... Enfin, toute ressemblance,
ouais,
comme on dit à la début des bouquins, toute ressemblance avec des personnes.
Ouais, comme
mais lui, je me suis offert le plaisir de mettre son nom. D'abord parce que je l'aimais bien, et puis en plus parce que je pense que de toute façon, personne ne va lire mon roman aux États-Unis.
On ne sait pas.
Je
ne
pense pas.
Attention,
oui.
Attention. Hein.
Au Canada, 3 ou 4, dont ma sœur.
Non, mais alors il faut se méfier des trucs. Hein. Parce que, alors c'est bizarre, hein, ça n'a rien à voir, mais en aparté, j'en parlais ce matin avec quelqu'un qui était là, il y a des choses bizarres, puisqu'on a reçu un mail il y a quelques temps à la radio d'un Finlandais qui disait « Moi, j'écoute Radio Crapon. »
Sur le net,
ouais, je pense. Hein. Et alors, tu sais, et il m'a dit, mais il met dans le mail qu'il dit « Je vais vous dire exactement... » parce que vous pouvez peut-être pas me croire, les pubs que vous avez passées, ce que vous avez dit, tel jour, telle heure, et c'était exactement ça, comme quoi, c'est marrant. Hein, c'est...
Oui, mais...
Maintenant, avec Internet, ça va dans le monde entier. Hein. Donc, pourquoi pas,
ben, écoute,
peut-être tes Autrichiens ou ton Américain, qui, non, mais c'est... On fabule un peu,
non,
là.
Non.
Hein, mais... non, mais pourquoi pas.
Et puis, à ma connaissance, il n'avait pas de descendants...
D'accord.
Américains.
Ouais.
Et Autrichiens, ça m'étonnerait.
D'accord. Bon, enfin, ils sont là dans l'histoire, quand même.
Oui, oui. Non, mais sinon, qu'est-ce que j'ai cité ? Non,
non, non, mais
non
bon.
Ça craint rien. Ça craint rien chez nous.
Chez nous.
J'ai là, cité c'est... des lieux réels, mais même pas ici.
Ouais, pas de.
Et quant à mon couvent, il n'existe pas.
Il n'existe pas.
Alors lui, il est inventé.
Oui, mais il n'y en a jamais bien eu dans le coin, là, des couvents.
C'est... Oui, il est en plein dans les forêts de la Chaise-Dieu.
Ah, ouais, ça va. À part les moines qui restent, il n'y a pas eu grand monde.
Non, c'est des sœurs.
Hein oui,
c'est
mais toi,
sœurs.
C'est des sœurs, mais
non,
nous,
non,
il nous
sœurs.
Reste des moines, nous, donc à la chaise de Dieu. Alors, cette ceinture dorée, ben, apparemment, elle va faire beaucoup d'envieux, elle va faire beaucoup parler. Hein.
Oui, et au bout du compte, quand je dis qu'il n'y a qu'un mort, en fait, non, il y en a une tapée.
Ah bon.
Parce que parmi les méchants, ça va tourner au vinaigre.
Voilà, c'est ça. Oui, parce qu'on sait, il y en a. On sait
qu'on
est ensemble pour faire un coup. Hein, c'est comme dans les films de gangsters.
Oui.
Et puis à la fin, il y en a un qui dit « Mais pourquoi moi, je ne prendrais pas le tout ?»
Voilà.
C'est un peu ça.
Et donc, non, je ne veux pas tout raconter.
Ils vont... On a compris qu'il va y avoir des altercations. Il y en a qui vont y laisser leur
Alors, on va retrouver, parce que ça, c'est mon plaisir, mon petit plaisir personnel, on va retrouver mon Paul Martin, l'auteur, et, enfin, le héros et le narrateur mes premiers romans en polar.
Ouais.
Et on va retrouver son copain, l'adjudant.
Oui, tu les as remis dedans, là.
Ah, je les ai mis. Je les ai mis à la fin. Ben, ça correspond au point de vue année 64. Mes premiers romans se déroulaient en 57-58. 64, l'adjudant est encore là, Martin est en pleine forme, etc. Mais je signale que dans l'avant-dernier, comment ça s'appelle déjà ? Le pont des derniers soupirs, il y était. Et il était marié. Et
D'accord.
le mariage de Paul Martin, c'est pas impossible que ça donne lieu à un autre roman.
Ah, d'accord. Donc tu as réussi à glisser ces personnages dans le dernier roman.
Ah, ben c'est mon plaisir.
C'est ça.
J'espère que c'est le plaisir du lecteur aussi.
Ouais.
Parce qu'il est intéressant, Martin.
Oui. Oui, bah oui, on s'en est rendu compte chaque fois que tu as fait un roman, il était dedans.
Ah ben
et
oui.
Là, et là, tu as réussi à les glisser dedans.
Oui, oui. Ah ben là, il joue pas un rôle.
Il a pas un gros rôle.
Il a un petit rôle.
Oui.
Dans le pont des derniers soupirs, il était décisif,
oui,
dans une certaine mesure, même si on le voyait pas beaucoup.
Mais là, par contre.
Ah, là, il y est. Il vend un vélo. Un vélo Solex.
Ouais, en plus.
Vélo Solex, c'est bien de l'époque, ça.
Ah, ben complètement. Ouais, le vélo Solex, c'est complètement ça. Hein, oui, donc tu as réussi à glisser quelques. Personnage de tes anciens romans.
De mes anciens romans, mais c'est un plaisir, ça se passe à Fongobon.
Ouais.
Pourquoi ne pas utiliser les personnages qui existent ?
Ouais, parce que surtout que.
Enfin, qui existent dans mon imagination.
Qui existent dans ton imagination, mais bon, comme là il y a un mystère, eux ça peut les intéresser aussi, hein, parce qu'ils aiment bien ça, quoi, de chercher qui a fait le coup, ou qu'est-ce qui s'est passé.
Oui. Ah ben oui, ça, mais ça c'est, on a parlé d'Agatha Christie. Alors Agatha Christie, c'est assez facile en fait. Il faut prendre le moins probable. Celui qui a le moins de chances d'avoir commis le truc, c'est lui.
Et c'est lui.
Excusez-moi, chers auditeurs, si je démolis Agatha Christie, c'est loin de moi l'idée, parce que c'était remarquable, mais,
oui.
Mais pour trouver le bonhomme, c'est à peu près comme ça qu'il faut faire.
D'accord. Donc voilà,
ou la bonne femme, parce qu'elle ne les arrange pas, les femmes.
Oui.
Moi, je suis
oui.
beaucoup plus respectueux avec les dames.
Hein. Oui.
Enfin, j'ai rarement de très mauvais rôles, encore que. Dans celui-ci, il y en a une qui...
Oui, qui n'est pas très...
On ne va pas trop insister.
...dessus, hein, donc... Alors bon, on a parlé pas mal de ce roman, hein. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Je ne vois pas.
Si, le cadre historique est quand même, j'espère, assez bien respecté.
Proche de la réalité.
Assez bien respecté. J'y mets, tiens, une figure, mais je n'explique pas. Alors les lecteurs qui ont une petite notion de la... De ce qui s'est passé pendant entre 1940 et 1945, je parle les parents en fait de la femme de Samuel sont parisiens, des Allemands émigrés à Paris, et ils essayent de se sauver avec le docteur Petiot. Il a été condamné et guillotiné après la guerre parce qu'il avait monté, il prétendait avoir un réseau de passeurs. Et les gens qui tuaient les gens qui étaient censés faire passer.
Ils
volaient leurs bijoux, leurs
économies. Oui.
Et puis ils les brûlaient dans sa chaudière.
Ah oui, d'accord.
Donc je parle du docteur Petiot.
D'accord.
Mais je n'explique pas. Donc voilà.
Oui, ça c'est.
Vous qui m'écoutez et qui lisez le roman, ben vous saurez, si vous ne le saviez pas, qui était le docteur Petiot.
Ouais, d'accord. Bah, c'était pas une personne à fréquenter, quoi.
Il n'était pas vraiment fréquentable.
Alors la ceinture dorée, c'est Pierre Petit aujourd'hui qui est avec nous au Presse de la Cité. Qu'est-ce qu'on a oublié de dire, ou qu'est-ce qu'on peut dire sans tout dévoiler de plus?
Je vous dirais pas que c'est génial, parce que non, c'est, je dirais que c'est le plus complexe de mes romans.
Et oui,
au point de vue intrigue,
d'accord.
C'est le plus complexe dans le temps, puisque ça commence en 1880, sauf erreur 8. Mais bon, c'est juste 3 pages. Hein.
Ouais.
Mais après, alors la tempête de neige, elle a existé.
Oui,
j'y fais référence dans un de mes bouquins, mais elle s'est déroulée dans l'hiver 40-41,
d'accord,
qui avait bloqué 2 trains.
D'accord.
Et j'ai, personnellement, dans la famille de ma mère, chez mon oncle, il y avait une photo où on voyait juste les 2 cheminées des locomotives qui dépassaient de la neige.
Donc il y avait un peu de neige, quoi.
Ouais, c'était dans la tranchée de Courbevès.
D'accord. Oui, donc...
Donc je l'ai transposé en 43, mais je l'avais utilisé déjà dans le pont des derniers soupirs,
oui.
À sa vraie date. Bon, tant pis, vous m'excuserez, cher lecteur. Sinon, je pense que j'ai été assez fidèle à l'esprit de l'époque.
D'accord.
Que j'ai connu que par racontard, hein,
oui,
par récit.
Oui, bah oui, c'est la transmission orale, hein, c'est ça. Hein, donc...
Je pense avoir été assez fidèle à donner l'ambiance de cette période.
Alors, oui, justement, j'aurais peut-être dû commencer par là, d'ailleurs. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée d'écrire ce roman? Non, comme ça, il
n'y
a pas quelque chose...
Excellente question.
Qui t'a déclenché, je sais pas, des fois il y a un truc qui déclenche et...
Oui, il y a quelque chose, il y a toujours un déclencheur, mais là en l'occurrence, tu me prends de...
Non, mais je te demande comme ça, il y a peut-être
mais...
un moment, t'as quelque chose qui t'est passé dans la tête, et tiens, pourquoi je ferais pas ça, quoi.
Oui, mais qu'est-ce qui m'a déclenché? Mais
est-ce que c'est une période qui t'intéresse beaucoup, par
pas
exemple?
Pas plus que ça.
Pas plus que ça, d'accord.
Non.
Voilà, non, mais c'est pour
non,
ça.
Non, on en fait le... Maintenant, on a l'impression que que c'est une période cruciale. C'est une période cruciale, effectivement. Ouais. Mais tout ne se ramène pas à cette période.
D'accord.
Non, ben alors pourquoi j'ai écrit ça?
Ben ça restera un mystère.
Ben c'est un mystère même pour moi, hein. Honnêtement.
Bon, mais c'est pas grave, le tout c'est que t'es sorti ton bouquin.
Mais le précédent c'était quoi déjà? Ah oui, le feu de Chomely.
Ah oui, le feu de
là,
Chomely.
C'était, ouais. Y avait un,
oui, mais là il y avait.
Il y avait quelque chose.
Ouais,
mais celui-ci, honnêtement.
Non, mais c'est pas. le tout, c'est que voilà, on l'a maintenant, la ceinture dorée.
Ben oui, j'espère que vous allez l'apprécier,
ouais, auprès de
chers auditeurs.
Alors Pierre, si on a à peu près tout dit, là, on ne peut pas aller plus loin, ben, sinon on va...
Non, je ne peux pas tout raconter.
Non, non.
Non, il y a quand même un peu de suspense, et je ne voudrais pas quand même trop le détruire.
Alors, il ne faut pas le détruire. Jamais il faut le détruire. Hein. C'est ce que je dis aux auteurs qui viennent. D'ailleurs, ils ne le détruisent jamais, en général. Alors, tu sais, toujours la dernière question, c'est toujours la même, mais je le pose à tous les auteurs, parce qu'on sait que vous êtes très prolifique. Il y en a certains, c'est même pire que du... qui arrive à avoir deux romans d'avance. Alors
oui,
toi, je ne sais pas si tu en as deux. Tu en as un sous le coude, là,
j'ai
ou pas
un manuscrit, j'ai un scénario qu'il faut que je retravaille avant de le soumettre à mon éditrice préférée.
D'accord. Mais tu as quelque chose, quand même.
J'ai un scénario, oui. Alors, ouais. Celui-ci, il est inspiré de Frères Réel, mais j'essaie de m'en éloigner quand même un peu.
D'accord.
Parce que c'est quand même trop récent.
D'accord.
C'est assez glauque comme histoire.
D'accord.
Et ça se déroulera... dans une période récente, donc.
Oui.
Mais il n'est pas prévu qu'il sorte avant 2020, fin 2024, si tout va bien.
D'accord, oui, ça fait.
Si j'arrive à me forcer à le corriger, écrire après ça
déjà
va.
Non.
Mais corriger le scénario, refaire un scénario, honnêtement, ça me pèse. J'ai pas dit ça me gonfle. Hein. Je l'ai pensé très fort. Et une fois que le scénario est fait, après. Écrire et, tout en s'en écartant du scénario, tout en prenant des libertés, c'est plutôt c'est une tâche, mais c'est une tâche qui n'est pas forcément désagréable.
D'accord.
Et le pur du plaisir, c'est quand on corrige.
Okay.
C'est quand on a écrit et qu'on corrige.
D'accord.
Et ça, les éditeurs ne comprennent pas, ils ne nous laissent pas assez de temps pour corriger. Que si ma éditrice préférait mon temps, ce qui m'étonnerait, elle le saura que...
Ouais, qu'il faut laisser un peu plus de temps aux auteurs pour se corriger.
Ah, en tout cas, moi, parce que
à
c'est
toi.
Mon plaisir de corriger.
Ah bon, d'accord.
Mais parce qu'il n'y a plus rien, on risque plus rien.
Ouais,
après,
d'accord.
On peut qu'améliorer.
Ok.
C'est du bonheur total.
Ok. Bon, bah, écoute, à découvrir, hein,
bah,
chers
j'espère.
Amis qui nous écoutaient. Pierre Petit, la ceinture dorée, aux Presses de la Cité, je pense qu'il est déjà à la maison de la presse de Craponne.
Oui. Ouais, elle me l'a montré ce matin, j'ignorais qu'elle l'avait.
Et ben voilà, ça va très vite, hein, mais si ça suit bien. En général, les auteurs qu'on reçoit, souvent les livres sont arrivés.
Oui, il faut dire que tu les reçois les auteurs assez vite.
Et ben on essaye, oui.
Contrairement à certaines.
Ah ben ça, après, je ne sais pas. Hein, mais... Et ben nous, on essaye hein, dans la mesure du possible. Des fois, même en ce moment, ça va très vite parce que celle qui est diffusée cette semaine. Elle, il venait de sortir quand je l'ai eu. Sortait le 1er février. On a fait l'interview derrière.
Oui.
Albert Duclos fait un peu plus longtemps. D'habitude, lui, le livre sort.
Lui, il en a deux d'avance.
Oui, il en a deux d'avance. Je ne sais pas toujours comment il fait, mais enfin bon, c'en est là.
Il a peut-être des nègres.
Ah, il me l'a jamais dit.
Albert, si tu m'écoutes, crois bien que je n'en crois pas un mot. Hein.
Sacré Albert. Un personnage, ça aussi. On pourrait écrire
un
bouquin rien que sur lui, je crois.
Non, ils sont excellents, ces romans.
Ah oui, ils sont très... Et puis, il a vraiment un lectorat, maintenant. C'est ce que je lui dis, je ne sais pas comment tu fais. Il y a toujours quelque chose. Puis, c'est différent, c'est pas...
Oui,
parce des fois,
pas,
tu
oui.
peux te répéter, tu sais.
J'aimerais bien avoir une réserve de sujets comme lui. Moi,
bon.
C'est sujet en sujet. Hein.
Bah, c'est bien aussi. Voilà, bah, écoutez, à découvrir... Hein, à découvrir. Je vous rappelle que cette émission est rediffusée le lundi à 22h.
Parce qu'on était en direct
mardi. Non,
toutes les bêtises.
On enregistre. Non, mais je redis que c'est rediffusé parce que souvent, c'est vrai que le jeudi après-midi, il y a des gens qui travaillent un peu quand même, donc tout le monde ne peut pas écouter. Donc c'est rediffusé lundi à 22h, le mardi à 19h, le mercredi à 12h30, et puis cerise sur le gâteau, bien sûr. Vous pouvez aller sur notre site et vous retrouverez cette interview de Pierre Petit, d'ailleurs de tous les gens que l'on reçoit. Merci Pierre d'avoir été avec nous.
Merci de m'avoir accueilli.
Alors le prochain, mais je te reverrai avant 2024.
On en reparle dans un an et demi.
Oui, puisque vous savez que Pierre est là quand même tous les vendredis, soir de 17h à 18h pour sa deuxième passion qui est la musique classique. Et on se régale chaque fois, hein. Moi quand je peux écouter,
j'espère.
Ouais,
alors cette fois, il y a un tube.
Il y a un tube, d'accord.
Tubissime.
D'accord.
Les Carmina Burana, au Fortuna des Carmina Burana, c'est tubissime ça.
Bon, et ben, vous écouterez tout ça. Merci Pierre d'avoir été avec nous.
Merci à toi, Jean.
Salut.
On the corner is there someone back tonight from a tugboat by the river.